Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce qu'on ne sait pas sur l'Iran. Un texte d'Émilie Nicolas paru le 5 mars 2026 dans Le Devoir. Je ne pourrai jamais savoir ce que c'est que d'être une Iranienne qui souhaite du fond de ses tripes la chute d'un tyran et d'un régime qui, encore en janvier 2026, broyait à la fois les corps et les voix de sa propre population. Je sais toutefois qu'en écoutant Donald Trump, j'entends parler de nucléaire et de pétrole, et non de conditions féminines, de droits de la personne, de liberté civile ou de démocratie. Il me semble bien que l'intérêt américain, c'est un Iran faible, non un peuple libre. Je sais aussi que dernièrement, Trump expliquait le pourquoi de sa guerre non seulement à sa population, mais aussi aux élus du Congrès américain. Je me doute bien que le président se fiche complètement des institutions iraniennes parce que pour attaquer l'Iran, il piétine les siennes. Je crois aussi savoir que le sort de la population civile iranienne n'intéresse pas vraiment la Maison-Blanche. Le tout premier jour de l'opération israélo-américaine, les bombes ont frappé une école pour filles, tuant plus de 150 personnes, dont plusieurs enfants. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, nous donne une vague promesse d'enquête, sans plus. Je ne connais pas d'entreprise de libération nationale qui ait déjà commencé ainsi. Je ne sais pas comment la mobilisation de la population iranienne peut arriver d'elle-même à bout de la répression du régime de Khamenei. Je sais toutefois que les assassinats politiques tendent à créer des martyrs, qu'on ne peut jamais démanteler un système qu'en visant son porte-étendard et que la violence des interventions étrangères tend à nourrir les ressacs extrémistes. Je sais aussi qu'avec l'enlèvement de Nicolas Maduro, c'est la deuxième fois depuis le début de l'année que Washington règle ses différends politiques en s'en prenant directement à un leader étranger. Dans le cas du Venezuela, les élus américains n'avaient pas été consultés, mais les PDG des pétrolières, eux, avaient été mis dans le coup. Je ne sais pas s'ils ont encore été appelés cette fois-ci. Mais je sais qu'en bombardant les pipelines iraniens, on fait monter le prix mondial du pétrole et maximise leurs profits. Dans les deux cas, le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas impliqué. Et les institutions internationales sont réduites à une mauvaise farce. En début d'année 2026, Trump confiait au New York Times que les seules limites à son pouvoir sur le monde devraient être sa propre moralité. Quiconque applaudit l'opération du week-end contribue à normaliser ce type de modus operandi à la Maison-Blanche. Qui, la moralité de Trump, visera-t-elle ensuite? Je ne sais pas combien de temps cette nouvelle guerre va durer, mais je sais que Benjamin Netanyahou accélère la dépossession palestinienne en Cisjordanie alors que le monde regarde ailleurs. Je sais aussi que, malgré un cessez-le-feu, les frappes israéliennes dans le sud du Liban n'ont jamais vraiment pris fin. Beyrouth est à nouveau bombardée et évacuée depuis le week-end, et l'armée israélienne annonçait une « zone tampon » au Liban, pendant que le monde regardait aussi ailleurs. Zone tampon, ça me semble une jolie expression pour ordonner à un peuple voisin de vider un territoire pour l'occuper à sa guise. Et bien sûr, puisque les opérations militaires libanaises tiennent au Hezbollah, qui tient à l'Iran, je ne vois pas pourquoi ni comment Netanyahou voudrait que l'opération israélo-américaine en Iran prenne fin de sitôt. Ce qui se joue ici, c'est notamment son expansionnisme territorial. Je sais aussi que Netanyahou arrive à se maintenir au pouvoir en Israël en gardant son pays dans un état de crise perpétuelle. Je sais que le premier ministre israélien affaiblit le judiciaire de son pays pour éviter de faire face aux accusations de corruption qui le plombent, en plus des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui le vise pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je sais aussi que, même lorsqu'il fait l'objet d'une grande impopularité, Netanyahou se sert de la guerre pour rester en place. Ce qui unit Trump et Netanyahou, au-delà des intérêts géopolitiques, ce sont leurs conditions humaines. On a affaire à deux hommes qui veulent le pouvoir non pas seulement parce que c'est une drogue, mais aussi pour éviter la prison. Pas plus tard que fin février 2026, NPR révélait que le FBI avait évité de divulguer des témoignages des dossiers Epstein qui pourraient incriminer directement le président américain. L'attaque sur l'Iran agit aussi comme une fulgurante éclipse médiatique, juste au moment où Trump en avait particulièrement besoin. Si Netanyahou et Trump peuvent s'échanger des plans militaires en excluant le Congrès américain du secret, je les crois aussi capables de s'inspirer des manières d'exploiter la guerre et le chaos pour s'accrocher au pouvoir. Avec l'approche des élections de mi-mandat, le président américain a déjà évoqué des doutes sur la capacité des États à tenir un scrutin juste et utilise les opérations de l'ICE pour créer un état d'urgence national. Je me demande si, à terme, cette guerre peut devenir un autre outil d'état d'exception employé par Trump pour s'accrocher malgré l'impopularité. Je me dis qu'on doit au moins quelque part tenter de faire le calcul. Je ne pourrai donc jamais exactement savoir toutes les forces qui triturent les entrailles du peuple iranien cette semaine. Je ne sais pas non plus sur quel élément concret s'appuient les analystes qui accueillent l'intervention israélo-américaine comme si, dans les derniers jours, quoi que ce soit avait été accompli qui nous rapproche nécessairement d'une forme de libération des peuples. C'était « Ce qu'on ne sait pas sur l'Iran », texte d'Émilie Nicolas paru le 5 mars 2026 dans Le Devoir.
Comment prolonger la vie de son téléphone? Un texte de Valérie Simard, paru le 6 mars 2026 dans La Presse. À quelle fréquence remplacez-vous votre téléphone intelligent? Alors que les déchets électroniques connaissent une hausse fulgurante, allonger la vie des appareils est un levier important pour réduire l'empreinte numérique. Bonjour, c'est Maria du magasin Belle des Caries. Comment trouvez-vous votre Apple iPhone 864GO? Bonjour, c'est Anthony du magasin Belle des Caries. Je voulais vous faire part d'une offre spéciale lorsque vous passez à un nouveau téléphone. Pendant plusieurs mois à l'automne 2025, des messages par texto nous ont suggéré que le temps était venu de changer de téléphone. Publicité, promotion, nouvelles fonctionnalités, batterie en fin de vie, incompatibilité avec la plus récente mise à jour logicielle. Les raisons d'acheter un modèle plus récent sont nombreuses et elles ne sont pas que technologiques. Le fait d'évoluer dans des environnements où on est bombardé de publicités de nouveaux modèles, de se faire dire qu'il faut qu'on ait ce dernier modèle pour pouvoir profiter de tel et tel usage, c'est une forme d'obsolescence, estime Martin Deron, responsable du défi numérique au chemin de la transition, un projet de l'Université de Montréal et d'espace pour la vie. Selon le sondage Net en danse 2024, les Québécois remplacent leur téléphone intelligent en moyenne tous les 4 ans et 1 mois. 2 personnes sur 10 le changent tous les 2 ans maximum et seulement 38% attendent que leur appareil ne soit plus du tout fonctionnel. À l'échelle mondiale, une méta-analyse publiée dans la revue Sustainability en 2025 fait état d'une durée d'utilisation moyenne de 2,78 ans pour les téléphones intelligents dans la dernière décennie. Pendant cette période, la quantité de déchets électroniques a explosé. Selon le rapport E-Waste Monitor de l'ONU, elle a atteint 62 millions de tonnes en 2022, soit un bond de 82 % par rapport à 2010. En 2022, le Canada se classait au troisième rang des pays générant le plus de déchets par habitant, avec une moyenne de 20 kilos. Selon l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique, entre 60 et 75 % de l'impact environnemental d'un téléphone vient de sa fabrication. Dans un téléphone intelligent, il y a une cinquantaine, voire une soixantaine de métaux différents, indique Martin Deron. Les extraire, les transformer en composants électroniques sont des processus qui demandent beaucoup de ressources en amont et qui sont très énergivores et émetteurs de polluants, notamment de gaz à effet de serre, GES. Au téléphone s'ajoutent des objets connectés de plus en plus nombreux utilisés par les personnes, les villes et les industries. Cette multiplication met de la pression sur les ressources naturelles et sur la gestion de la fin de vie utile de tous ces appareils. À l'issue d'ateliers réunissant experts et citoyens, les chemins de la transition ont identifié la sobriété matérielle et énergétique comme un pilier pour la transition numérique. Pour y arriver, la majorité des personnes et des organisations doivent utiliser leurs appareils plus longtemps. Bonne nouvelle, les téléphones intelligents sont aujourd'hui plus durables. Les téléphones font beaucoup moins défaut et les vitres brisées, on en voit beaucoup plus rarement, observe Jean-Sébastien Roy, président de Second Cell et président directeur général de Premium Cell, un regroupement de magasins franchisés Bell et Virgin. Cela permet aux entreprises comme Second Cell, qui revendent des téléphones reconditionnés, de donner une seconde, voire une troisième vie aux appareils. Un téléphone mobile reconditionné permet de prévenir l'extraction de 76,9 kg de matières premières et l'émission de 24,6 kg de GES par année d'utilisation, selon les calculs de l'ADEME. La plupart du temps, c'est la batterie lithium-ion qui flanche en premier, constate Jean-Sébastien Roy. Parfois, au bout de 2 ans, voire moins. Celles qu'on retrouve dans les téléphones intelligents conservent généralement leur performance optimale pendant 500 à 800 cycles de charge complet. Mais elles sont remplaçables. iFixit offre des tutoriels et des trousses pour ceux qui souhaitent le faire eux-mêmes. Selon Jean-Sébastien Roy, une batterie bien entretenue peut durer 3 ou 4 ans. Et c'est une question de bonnes habitudes, de bons réglages dans le téléphone, mais aussi, le plus important de tout, de bons chargeurs. Il remarque que trop de gens utilise un chargeur inapproprié n'ayant pas la bonne puissance. Les gouvernements, les entreprises et les organismes doivent également être mobilisés, conclut le rapport des chemins de la transition. Pour atteindre la sobriété, il faut pouvoir avoir accès à des appareils conçus pour être réparés et aux pièces pour le faire, affirme Martin Doron. À ce propos, il juge que la nouvelle loi québécoise pour lutter contre l'obsolescence programmée est un pas dans la bonne direction. Conseil pour faire durer sa batterie. Visez un niveau de charge de 20 à 80 %. Sur certains modèles, il est possible de limiter la charge à 80 %. Activez le réglage « charge optimisée de la batterie ». Si vous avez une routine de charge établie, la recharge sera mise en pause après 80 % et reprendra peu avant l'heure à laquelle vous débranchez généralement votre téléphone. Évitez le chaud et le froid. N'utilisez pas votre téléphone pendant qu'il charge. Cela peut causer de la surchauffe. Réduire les activités énergivores et activer la fonction d'économie d'énergie aide à étirer la charge d'une vieille batterie. Utilisez un chargeur compatible, recommandé par le manufacturier. Pour les chargeurs sans fil, recherchez la certification QI. C'était « Comment prolonger la vie de son téléphone ?» Un texte de Valérie Simard, paru le 6 mars 2026 dans La Presse.
Ottawa poursuivi pour avoir autorisé la destruction de l'habitat du chevalier cuivré. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 9 février 2026 dans Le Devoir. Le gouvernement canadien a contrevenu à sa propre loi sur les espèces en péril en autorisant l'administration portuaire de Montréal, APM, à détruire une partie de l'habitat essentiel du chevalier cuivré. C'est ce qu'affirment les deux organismes qui viennent de déposer une poursuite qui conteste la légalité de la décision du fédéral qui a appuyé et financé le mégaprojet portuaire. Près d'un mois après l'autorisation accordée par Pêche et Océan Canada, MPO, qui permet aux promoteurs du futur port de détruire des milieux naturels aquatiques protégés dans le cadre de leurs opérations de dragage du fleuve Saint-Laurent, la Société pour la nature et les parcs, SNAP Québec, et le Centre québécois du droit de l'environnement, CQDE, viennent de déposer une poursuite en cour fédérale contre la ministre de MPO, Joanne Thompson. Les deux organisations contestent la légalité de la décision permettant la destruction de portions de l'habitat essentiel du chevalier cuivré. Cet habitat, qui comprend des herbiers essentiels pour l'alimentation de l'espèce, est protégé en vertu de la loi sur les espèces en péril qui interdit normalement toute forme de destruction. Dans ce contexte, le feu vert du fédéral est déraisonnable et contraire aux dispositions de la loi sur les espèces en péril, souligne Maître Anne-Julie Asselin, avocate chez Trudel, Johnson et L'Espérance, qui représentera la SNAP Québec et le CQDE dans ce dossier. La protection du chevalier cuivré n'est pas qu'une question morale. C'est aussi une obligation légale. Nous estimons que la loi n'a pas été respectée. Les conditions pour l'octroi d'un permis en vertu de la loi sur les espèces en péril n'ont pas été remplies et la démonstration que toutes les solutions alternatives raisonnables ont été considérées n'a pas été faite, ajoute Geneviève Paul, directrice générale du CQDE. Compensation expérimentale. Ottawa a justifié son autorisation en s'appuyant sur un projet d'aménagement compensatoire approuvé à l'automne 2025 par MPO. L'APM construira notamment 600 mètres de digues de roches dans le fleuve afin de permettre la création d'herbiers aquatiques dans un secteur actuellement très réfractaire à l'implantation de ce genre d'écosystème en raison du trafic commercial. L'autorisation obtenue par l'APM lui permet de détruire des portions de l'habitat avant d'avoir démontré que les nouveaux herbiers compenseront les pertes. Si le fédéral et l'APM assurent que ce projet sans précédent permettra de compenser les pertes et donc de ne pas contrevenir à la loi sur les espèces en péril, le Devoir a rapporté que des scientifiques de la Direction de la gestion de la faune du ministère de l'Environnement du Québec estiment que ce genre de mesure n'a jamais démontré son efficacité. Dans le cadre d'avis rédigés en 2025, soit au moment où le fédéral s'apprêtait à autoriser le projet censé compenser les destructions prévues, il souligne que la création d'herbiers n'est pas une méthode éprouvée et que la compensation de ce genre d'habitat reste expérimentale. Ils insistent par la même occasion sur le succès mitigé de la création d'herbiers et l'aspect expérimental de la méthode. En réponse aux questions du Devoir, le ministère de l'Environnement du Québec fait aussi valoir que la protection des herbiers existants demeure donc l'option privilégiée. Au bord du gouffre, le chevalier cuivré est une espèce de poisson qui existe uniquement au Québec et qui est classé en voie de disparition en vertu de la loi sur les espèces en péril. Les milieux aquatiques qui seront perdus, ainsi que ceux qui pourraient être affectés par les travaux de construction et le futur trafic maritime commercial lié à ce nouveau port, font partie d'une aire de répartition très restreinte et perturbée par l'activité humaine. Le dernier rapport du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, portant sur ce poisson, fait état de déclin observé et inféré continu de l'aire de répartition, de la qualité de l'habitat et du nombre d'individus matures. La situation de l'espèce est à ce point critique que le gouvernement du Québec a mis en place depuis plus de 20 ans un programme de reproduction artificielle du chevalier cuivré. Par courriel, le ministère de l'Environnement du Québec précise que la réussite de cette initiative repose également sur la disponibilité et la qualité de l'habitat essentiel à l'espèce. Parmi les composantes clés de cet habitat figurent les herbiers du Saint-Laurent, comme ceux qui seront détruits par les travaux de dragage de l'APM sur une superficie équivalente à 20 terrains de soccer. Le principe de précaution et les connaissances scientifiques doivent impérativement continuer de guider la mise en œuvre de la loi sur les espèces en péril. C'est sur cette base, et alors qu'il est au bord du gouffre, que le chevalier cuivré mènera son ultime combat en cour fédérale, insiste le biologiste Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec. Au moment où le gouvernement fédéral a décidé en 2021 de protéger l'habitat essentiel du chevalier cuivré, le gouvernement caquiste s'y était opposé, jugeant que cela nuirait au développement de projets comme celui du port de Contrecoeur. C'était Ottawa poursuivi pour avoir autorisé la destruction de l'habitat du chevalier cuivré, un texte d'Alexandre Shields, paru le 9 février 2026 dans Le Devoir.
Suffisent. Caresser un chat ou un chien réduit le stress de manière importante. Un texte de Cover Media, paru le 25 mars 2026 dans le Journal de Québec. Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte au quotidien, mais c'est désormais prouvé scientifiquement. Caresser un chat, ou un chien si vous préférez, peut réduire de manière considérable notre niveau de stress. D'après une équipe de chercheurs de la Washington State University, qui s'est intéressée au sujet en profondeur en 2019, il suffirait de 10 minutes par jour pour ressentir les effets de la sérénité féline. L'équipe de scientifiques a demandé à 249 élèves de leur faculté de se séparer en 4 groupes. Le premier interagissait avec des chats et des chiens pendant 10 minutes. Le deuxième devait attendre son tour pendant 10 minutes en regardant les autres s'amuser avec les animaux. Le troisième regardait des photos des animaux du test, tandis que le quatrième était mis à part en liste d'attente, toujours pendant la même période. Pour chaque groupe, les scientifiques ont testé les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, avant, pendant et après leurs interactions avec les animaux. Les résultats sont clairs. 10 minutes suffisent à avoir un impact significatif. Les étudiants qui ont participé à notre étude ont vu leur niveau de cortisol baisser de manière importante. Nous savions que les étudiants aiment interagir avec des animaux et ça leur permet de ressentir des émotions plus positives, a expliqué le docteur Patricia Pandry, en charge de l'étude. Les animaux contre la dépression. La ronronthérapie n'est donc pas une lubie. Grâce à leur basse fréquence, les ronronnements du chat ont un effet bénéfique sur l'homme, contre le stress et la dépression. En octobre 2025, une nouvelle étude Ipsos pour Santé Vet confirmait les bienfaits de nos compagnons à quatre pattes sur notre morale. 95% des Français possédant un animal affirment que sa présence a un impact positif sur leur santé mentale. Un chiffre qui grimpe à 97% chez les 18-24 ans, que ce soit contre le stress ou le sentiment de solitude. Les personnes sondées estiment par exemple passer moins de temps sur leurs écrans grâce à leur animal. Caresser un chien ferait chuter la pression artérielle et diminuer le rythme cardiaque. Les hormones du stress, comme le cortisol et l'adrénaline, sont aussi en baisse en présence d'un animal, alors que la production d'ocytocine et de sérotonine, les hormones du bonheur, est dynamisée. Pas étonnant que, selon une étude parue en mars 2025 dans la revue Social Indicators Research et relayée par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, posséder un animal de compagnie augmenterait le bonheur ressenti, qui rivaliserait avec le niveau de satisfaction des gens percevant un revenu annuel de 84 000 euros. C'était 10 minutes suffisent. Caresser un chat ou un chien réduit le stress de manière importante. Un texte de Cover Media, paru le 25 mars 2026 dans le Journal de Québec.